4 à offrir, à partager, à déguster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Yvonne a 10 ans le 21 juillet 1969. Elle vient d'arriver à Milan avec sa famille et vit dans un petit deux pièces dont les fenêtres donnent sur la rue. Ils ont fui la Bulgarie et son régime communiste avec 4 valises et des rêves de l'Ouest comme d'un paradis. Cette nuit-là est la première de son rêve. Sur la télé en noir et blanc, Yvonne voit des hommes marcher sur la Lune. Le miracle lui paraît sans limite, comme une expansion de l'humanité. Elle se souvient aujourd'hui de ses sensations. Il fait chaud, elle est en pyjama. Avec son frère, ils se sont faufilés dans la chambre des parents et se couchent très tard, regardant ces drôles d'hommes marcher sur la Lune jusqu'au bout de la nuit. Yvonne ressent alors la paix, l'accueil d'une nouvelle terre et la liberté. C'est la plus belle nuit de sa vie. Tout de suite dans les pieds sur terre, elles sont 3 autres femmes à raconter la plus belle nuit de leur vie, la plus profonde, celle qui a tout éclairé ou changé le cours des choses. Et pour les fidèles des pieds sur terre, je vous laisse deviner, c'est facile, laquelle de nos productrices a recueilli ces histoires. En attendant, je vous souhaite évidemment à vous aussi une très belle nuit de réveillon, la plus belle, qui sait.
La nuit la plus belle de ma vie, c'est le 7 mars 2007 en Inde où j'ai compris dans mon fort intérieur que je sortais d'une très longue maladie puisque j'avais été malade en fin de compte pendant 28 ans. Et ce soir-là, je savais qu'il allait se passer quelque chose que j'ai du mal à expliquer encore aujourd'hui. J'adore la nuit. La nuit est pour moi un moment de protection. La nuit me fait du bien. Parce que déjà, quand j'étais toute petite, on regardait beaucoup les étoiles. Je suis née sur l'île de Madagascar et on regardait toujours la nuit, les étoiles, avec ma grand-mère. Voilà. Et ma grand-mère, elle était institutrice. Elle est arrivée dans les années 40, à l'époque où c'était une ancienne colonie française. Voilà, elle est devenue veuve très jeune. Et en deuxième noce, elle a épousé un Italien et c'est lui qui m'a élevée. Mais quand Madagascar a demandé son indépendance, elle y est restée. Donc moi, je suis née après l'indépendance d'un papa que je n'ai pas connu. Ma mère m'a eu d'une histoire de jeunesse avec un Indien. C'est tout ce que je sais. Elle ne m'a jamais expliqué, même aujourd'hui, elle ne veut pas en parler. Quand je suis née, ma mère, elle était jeune. Elle avait du mal, en fin de compte, à gérer à la fois sa vie de femme, sa vie de maman. Et donc, j'ai été récupérée petite par ma grand-mère, en fin de compte. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Voilà. Mais ce que j'ai su plus tard, c'est qu'en fin de compte, ma mère n'a jamais voulu de moi. Quand Madagascar a quitté la zone franc, ma mère a décidé de venir vivre en France. Et donc, mes grands-parents se faisant âgés, je suis venue vivre avec ma mère à Limoges, à l'âge de 14 ans. Mais pour moi, ça a été très difficile. Parce qu'au plus profond de moi, je pense que je savais que j'étais une enfant qu'elle n'avait jamais voulu. Je savais de toute façon qu'elle ne m'aimait pas. Quand elle m'appelait par mon prénom, elle m'appelait l'autre. Elle ne m'appelait pas par mon prénom. Mon prénom, c'est Dominique. Ma maladie, en fin de compte, elle a commencé quand je suis arrivée chez ma mère à l'âge de 14 ans, puisque quand j'étais sur l'île de Madagascar avec mes grands-parents, j'étais une grande sportive. La question de la nourriture ne s'est jamais posée pour moi. Mais d'ailleurs, je n'étais pas une anorexique comme tout le monde, parce que, tout simplement, j'étais, je pense, tellement angoissée à l'intérieur de moi que j'avais du mal à me nourrir. Voilà. C'était surtout le soir, en fin de compte. Le soir, quand je rentrais chez moi, il y avait une grande solitude qui était là. Et le fait de me retrouver toute seule, parce que ma mère ne s'intéressait jamais à moi. Et puis, elle m'a avoué qu'elle a tenté de m'avorter. Et elle a trouvé de mieux à me dire, de toute façon, tu sais, je ne t'ai jamais aimée. Donc j'ai des souvenirs de beaucoup de violence autour de moi, beaucoup de violence. Des souvenirs où elle criait tout le temps, où elle est... Puis quand on est aussi anorexique, ben on s'isole des autres. Et donc ça, pour moi, c'était le plus difficile. Et puis de toute façon, je ne suis pas restée très très longtemps. J'ai quitté, je devais avoir 22 ans, j'ai quitté Limoges pour venir vivre à Paris. En fin de compte, j'ai rencontré plusieurs personnes à qui je racontais mon histoire de ma maladie. Et à chaque fois, j'avais toujours des gens qui me disaient « pars en Inde, pars en Inde ». Parce que je disais que j'étais née d'un papa indien que je n'avais pas connu. Et c'était très bizarre parce qu'à un moment, je devais partir avec un groupe, avec des gens, et ça ne se faisait jamais. Et à chaque fois que je devais partir, ça ne se faisait pas. Une fois, deux fois, trois fois. Mais je pense que je n'étais pas prête. Et donc ma vie, elle a en fin de compte, depuis 2005 à 2007, j'arrêtais pas de rencontrer des gens qui me disaient « pars en Inde, pars en Inde, pars en Inde, pars en Inde ». Puis je me suis écoutée, je suis partie. Et j'avais décidé... là que je partirai seule. J'étais contente. D'ailleurs, le matin, quand j'ai pris le taxi, j'étais très calme. Très, très calme, même dans l'avion. Alors que je partais dans un pays que je ne connaissais pas du tout, hein, immense, hein. Quand je suis arrivée à l'aéroport, on m'attendait. Ce qui m'a le plus touchée, c'est que les Indiens m'ont mis les deux mains jointes comme ça, vous savez, pour me dire bonjour et pour me dire en gros bienvenue. Et quand on dit bonjour de cette manière-là, en disant namasté, ça a une connotation de grâce. Je ne sais pas comment vous l'expliquer en fin de compte, et parce qu'on me l'a un petit peu transcrit. Et après, je me rappellerai toujours d'une personne qui est venue vers moi et qui m'a fait ça. C'est de mettre votre main à côté de vos pieds et tout se toucher le front. Et il a fait comme ça et a mis sa main vers le ciel comme ça en fin de compte. Et petit à petit, j'ai compris que ça avait quelque chose de très fort en fin de compte. C'est en gros, on t'honore. Voilà, c'est t'honorer. C'est à la fois cette grâce et cette protection, ce vous savez, c'est un truc qui vous protège, qui est là, qui est à l'intérieur de vous, qui, je ne sais pas. Mais c'était magique. Et après, on a pris la voiture et on est allé au point là où j'allais, en fin de compte, qui était dans le nord de l'Inde, dans un endroit qui s'appelle Bindavan exactement. Et là, je suis arrivée, il était 2 ou 3 heures du matin, il faisait nuit. Et il y avait beaucoup de chants dans cette petite ville, en fin de compte, on entend beaucoup les chants sacrés. Et cette nuit-là, j'étais là, mais calme, 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 mais très très calme. Alors qu'habituellement, dans ma maladie, j'étais assez agitée. Et là, mais calme, calme, quelque chose qui me disait, mais t'inquiète pas, cette petite voix à l'intérieur, ne t'inquiète pas mon enfant, tout va bien, tout va bien. T'es en sécurité, tout va bien. J'ai l'impression d'être légère, très très légère. Je regardais les étoiles, j'étais là assise et j'avais l'impression d'être d'une nouvelle naissance. Le lendemain, à mon grand étonnement, j'ai mangé normalement. Le jour suivant, j'ai mangé normalement. Le quatrième jour, j'ai mangé normalement. Le cinquième jour, j'ai mangé normalement. Mais moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je mange? Et puis, je mangeais bien, en plus. Je mangeais même très, très bien. Des sucreries, des choses que je ne connaissais même pas, qui n'étaient même pas dans mon habitude alimentaire. Hein. Je me sentais bien. Et j'allais à tel endroit et puis c'est comme si ma maladie avait quitté mon corps. Vous savez, j'avais retrouvé cet appétit en fin de compte de cet enfant de l'âge de 14 ans qui faisait énormément de sport et qui mangeait beaucoup. Vous savez, de retrouver cette quintessence de la petite fille que j'étais joyeuse, pleine de vie, je vous dis. Voilà. Et je suis restée 3 semaines dans cet endroit de l'Inde, dans le nord de l'Inde, et j'ai compris que j'étais sortie de ma maladie. Ce qui m'a guérie, c'est le fait de me sentir en sécurité. Là-bas, je n'ai eu que des regards d'amour, de bienveillance. Vous savez, quand je sortais et qu'il y avait des mamans indiennes qui me regardaient et qui me disaient « Mais qu'est-ce qu'elle est souriante, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique, mais qu'est-ce qu'elle est... » Vous voyez, tout ça, je ne l'avais jamais entendu. tout ce que je n'avais pas connu, alors que ma vie, ça n'était que du chaos, en fin de compte, que de la... des années d'errance, voilà, de vide, même de vide à l'intérieur de soi. Et là, j'avais l'impression d'être remplie à l'intérieur de moi, remplie. La paix, qui ne quitte pas, hein, qui est là. Hein. Mais quand je suis rentrée en France, 3 semaines après, je suis allée voir mon médecin et je lui dis que c'était fini, que j'étais guérie. J'ai vécu avec ma maladie pendant 28 ans. Voilà. Et aujourd'hui, ça va faire 14 ans et je suis sortie définitivement de ma maladie. Et, mais je n'ai jamais connu de nuit comme cette nuit-là que...
Comme cette nuit-là. Je suis italienne d'origine, ma famille est italienne, mais j'ai vécu ma toute première enfance, quelques années, disons 3 ans, en Tunisie, à Tunis. Et je me souviens d'un jour où ma mère avait acheté, juste à l'entrée du marché, dans la Médina, des chrysalides chez un berbère magnifique, avec un grand turban blanc. La peau foncée m'avait beaucoup marquée. C'était un homme rayonnant, très très beau, silencieux, avec des mains grandes, longues, fines, très très marquées aussi par le soleil et par cette lumière inouïe de ce pays. Et il a dit que c'était des chrysalides et que ça allait s'ouvrir ce jour même, la nuit même. Donc ça allait devenir des papillons. J'avais déjà jamais vu ça de ma vie. Moi, j'étais toute petite, je devais avoir 4 ans, donc je ne me souviens plus exactement, peut-être qu'elle en a acheté 3 ou 4. On est rentré, on a placé donc ces chrysalides dans une pièce. Il y avait donc une petite table sur laquelle il y avait ce panier avec ces chrysalides et on avait mis de l'herbe autour, on avait mis quelque chose sur la table pour que ces papillons ne se trouvent pas complètement dans un environnement non naturel. Et là, nous avons décidé, donc, de, 3 frères et sœurs, d'attendre le moment et de voir les papillons sortir. Et on a commencé à attendre et on papotait avec mes frères et sœurs. Simplement, il fait tard, donc à un moment, on était un peu les uns sur les autres. Mon petit frère s'est endormi le premier et ensuite ma sœur aussi. Je me souviens d'avoir résisté. Mais au début, je laissais faire parce que rien ne s'est passé. Et en fait, j'ai même pensé que le monsieur qui nous avait vendu le chrysalide s'était trompé. Il nous avait dit que c'est pour cette nuit, mais que ça devait être peut-être la nuit d'après. Mais j'ai fixé énormément de mes yeux les chrysalides. Je m'efforçais de voir précisément ce qui est arrivé. Et puis, je ne pourrais pas vous dire exactement à quelle heure, mais je me souviens très bien le changement de la lumière dans la nuit. Et tout à coup, le début d'aurore, c'est-à-dire cette lumière qui n'est plus exactement la nuit, d'un bleu blanc d'avant l'aube, et le bruit des chrysalides. Ce bruit d'ailes, ce bruit, cet effort pour sortir de la chrysalide, n'est-ce pas, comme un petit grattage sur la chrysalide. Donc j'essaye d'appeler ma sœur en disant il y a quelque chose va se passer. Elle me dit, mais non, là, c'est pas possible, il fait noir. Mon frère, n'en parlons pas, dans un sommeil profond. Et puis, effectivement, on peut voir le papillon sortir de ses chrysalides et partir, attiré par la lumière, s'envoler presque aussitôt. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose comme un insecte recroquevillé Et en fait, elle déploie immédiatement les ailes pour s'envoler. Ce n'était pas des papillons colorés. J'ai même une image d'ombre des papillons comme un noir et blanc. Voilà, une couleur un peu de terre. Et donc, ils s'envolent vers la fenêtre ouverte. Laisse la chrysalide, ne se tourne même pas derrière pour voir qu'est-ce qu'il y a autour, happé par cette lumière. Ce qui fait que, dans le tour de même pas peut-être 10 minutes, il n'y avait plus que les chrysalides vides, avec un trou parfait. J'ai jamais plus vécu cette expérience. Ces papillons se libèrent avant l'aube. C'est juste quelque chose qui est inscrit dans la nature. Je ne sais pas comment ça s'explique. La lumière du jour, c'est une espèce de blancheur et vous ne pouvez vraiment pas dire si c'est la fin du jour ou le début du jour. C'est le fond de notre humanité, cette lumière. Cette nuit m'a marquée parce que j'ai toujours pensé qu'avec la nuit, quelque chose peut naître. On renaît chaque jour grâce à la nuit. Donc j'adore travailler la nuit et surtout travailler jusqu'à l'aube. J'ai la chance d'être chercheur et de travailler sur des textes anciens. Et je traduis, je lis, je compare. Et j'essaye de me permettre ça, au moins une fois ou deux fois dans la semaine, de tenter de traverser la nuit et arriver à l'aube. Et je pense que le repos est véritablement mérité seulement lorsqu'on a traversé tous les bleus de la nuit et qu'on arrive à cette lumière blanche d'avant l'aube qui nous permet véritablement de reposer.
Je me souviens d'une nuit, c'est un moment où je vivais en Afrique, donc c'était le soir, et je m'apprêtais à prendre l'avion qui d'Afrique allait me mener en Californie, où habitait et travaillait l'homme que j'aimais. Je savais qu'au bout de cette nuit, je le retrouvais, et qu'au cours de cette nuit, j'allais traverser des mondes et qui étaient finalement tous les mondes que lui-même m'avait donnés quand je l'ai rencontré. Il incarnait ces mondes, c'est-à-dire c'était un homme quand je l'ai rencontré, il avait déjà vécu à Istanbul, il avait vécu... Mais je pense que ce qui m'a immédiatement séduite en lui, c'est aussi à côté de qualité, je dirais, de bonté, de bienveillance, c'est cette ouverture-là, c'est-à-dire qu'il était d'un endroit et d'un autre. Je crois que ce que j'ai aimé chez lui, c'est cette intensité. Et j'ai immédiatement été séduite par cette intensité. De toutes les personnes que j'ai aimées, c'est avec lui, en effet, que la relation a été la plus belle et la plus complète. Il n'y a jamais eu autant cet accomplissement-là qu'avec lui. Aujourd'hui, je sais que c'est mon grand amour. Il m'a reconnue tout de suite et il m'a pris pour tout ce que je suis, aussi bien les fragilités que les forces. d'emblée. Je savais que je pouvais être pleinement moi sans que ce soit peut-être quelque chose qui se retournerait contre moi. C'est-à-dire, je sentais que je n'avais pas besoin d'avoir de défense. Je crois que j'ai été dans cette nudité-là avec lui, sans crainte. Parfois, on ne se livre qu'à demi parce qu'on ne sait pas qui est l'autre. Mais avec lui, non. Enfin, et c'est ça, je crois, un vrai amour. Quand je prends l'avion, je me souviens que à la fois d'un état d'impatience et puis d'une appréhension aussi. En fait, je pense qu'il y a toujours cette peur chez les amoureux de se dire, est-ce qu'on va se retrouver dans la même intensité que lorsqu'on s'est séparés, sachant que pendant 3 mois, on ne s'est pas vu. Alors voilà, en gros, est-ce que je vais plaire autant à l'autre qu'avant? Et est-ce que l'autre va me plaire autant qu'avant? Et si je le trouve changé, comment je vais prendre ce changement? Et lui, pareillement. Chaque heure de cette nuit me rapproche un peu plus du grand bonheur qui est de le retrouver. Et donc je suis dans cette montée de l'impatience, cette montée de l'excitation qu'il y a à se dire oh, au bout de la piste, je vais le voir, je vais être dans ses bras. Donc c'est ça, c'est comme c'est une nuit où progressivement je me rapproche de lui. C'est la nuit qui précède le grand bonheur. Voilà, on peut dire c'est la plus belle nuit. C'est l'amour qui fait faire ça. L'amour, il fait traverser la terre. Et donc, quand l'avion a survolé le Golden Gate Bridge, j'allais le voir 45 minutes plus tard. Quand ensuite j'arrivais à San Francisco, là je me souviens très bien, en sortant de cet aéroport, au moment où j'ai reconnu sa silhouette, le fait même que d'emblée que je le reconnaisse, que d'emblée je me réfugie, qu'il me prenne dans ses bras, on était bien tout de suite. On a rejoint cette voiture, l'endroit où il était garé. Et puis j'ai regardé, finalement j'ai poursuivi le voyage, c'est-à-dire que j'ai posé mes yeux sur cette ville en me disant, ben voilà, donc c'est là qu'il est, c'est là. Et je le voyais, il était en train de conduire et j'étais tout simplement heureuse. Il n'était plus derrière un écran, il n'était plus à des milliers de kilomètres de distance. On était de nouveau ensemble. Pendant le trajet, j'étais dans une forme d'attente du moment où il allait ouvrir la porte de l'appartement et du moment où j'allais le suivre dans la chambre. J'étais dans cette attente-là. En réalité, je n'étais que dans cette attente-là. On était habité par cette tension. On n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Je savais qu'il y aurait des premières images, il y aurait une porte qui allait s'ouvrir et puis sa chambre et lui qui allait me guider vers cet endroit Et ensuite, cet endroit, ce serait le nôtre, c'est l'endroit où on se retrouverait vraiment, vraiment. Tout était là, de nouveau.
Oh, naive little me, asking what things you have seen. And you're vulnerable in your head. You're screaming your way to your dead. Creatures veiled by night, following things that aren't right. And they're tired and they need to be led. Well, you're screaming your way to your dead. But give
give me to a rambling man. Let it always be known that I was who I am. Well, beaten, battered, and cold, my children will live just to grow old. But if I sit here and weep, I'll be blown over by the slightest of breeze. And the weak need to be led, and the tender are carried to their bed. And it's melancholy fair, and I'll be damned if I'll be found there. But give me to a rambling man, let it always be known that I was who I am. It's funny how the first chords that you come to are the minor notes that come to serenade you. It's hard to accept yourself as someone you don't desire, as someone you don't want to be. Little me, asking what things you have seen.
C'était La plus belle nuit de ma vie, un reportage évidemment signé Élise Andrieux et évidemment réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Jean-Christophe Francis, en vous souhaitant à tous et toutes également une très belle nuit de réveillon, la plus belle de votre vie. Merci à Dominique, à Sylvia, Anne-Sophie, ainsi qu'à Yvonne, Véronique, Florence, François, Quentin, Tenot, qui nous a suggéré cette thématique. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartig-Sébastien. Et je vais vous faire la blague. Et je vous dis à l'année prochaine.
We're beaten, battered, cold. My children will live just to grow. But if I sit here and weep, I'll be blown over by the slightest of breeze. And the weak need to be led, and the tender are carried to their bed. And it's melancholy fair.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France. Vous êtes bien sur France Culture.
Avec Philosophie. Cette semaine, portrait d'Iris Murdoch, philosophe écrivaine.
Géraldine Mosna-Savoie.
Son nom vous fait peut-être penser à celui d'une détective privée britannique et vous n'avez pas tort. Iris Murdoch, à travers ses romans et ses essais, avait une quête, celle de percer le mystère de la vie humaine. Mais comment rendre compte de la diversité de chacun et de nos drames personnels ? Cette semaine, on part en quête d'Iris Murdoch.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les matins de France Culture, Jean Lemarie.
Bonjour à toutes et à tous et très bonne année. Depuis 6h29, nous sommes donc en 2025. Pas sûr que le monde ait totalement changé cette nuit, mais c'est une nouvelle année et je suis ravi de vous retrouver. Les matins de France Culture commencent maintenant. Soyez les bienvenus, il est 6h30. Et pour commencer ces matins, un premier journal avec vous, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. La dissolution a apporté davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions pour les Français, a reconnu Emmanuel Macron hier soir dans ses vœux. Pour le moment, en tout cas, dit-il, vous l'entendrez. 2025, année porteuse d'espoir en Syrie après la chute du régime de Bachar el-Assad. Reportage à Damas.
Dans 10 minutes, les enjeux internationaux au Kenya ce matin, dans des lieux étonnants. Les clubs de l'élite, vous verrez.
Emmanuel Macron fait son mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Il l'avait décidé en juin dernier au soir des élections européennes. Le RN était arrivé largement en tête. Face à la montée des nationalistes, il faut redonner aux Français le choix de notre avenir parlementaire, avait-il alors expliqué. Cette dissolution a créé des divisions, il l'a dit clairement hier soir lors de ses vœux, même s'il considère que l'Assemblée d'aujourd'hui reflète la diversité des opinions des Français. Écoutez.
Je dois bien reconnaître que la dissolution a apporté pour le moment davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions. Elle est pleinement légitime et dans cette configuration inédite mais démocratique, elle doit savoir dégager des majorités, comme le font d'ailleurs les parlements des grandes démocraties, et notre gouvernement doit pouvoir tenir un chemin de compromis pour agir. Je remercie ici Michel Barnier, qui après Elisabeth Borne et Gabriel Attal, s'est engagé avec sincérité. Et j'adresse tous mes vœux à François Bayrou et à son gouvernement.
Emmanuel Macron, hier soir, dans son allocution télévisée. Parmi les nombreuses réactions à ses propos, celle d'Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. Pour lui, le chef de l'État n'est pas allé assez loin. Il devrait même démissionner après avoir reconnu sa part de responsabilité dans l'échec de la dissolution.
Bah, il fait un mea culpa, mais il n'en tire aucune leçon. Parce que la question n'est pas qu'elle ait entraîné plus de divisions. C'est surtout qu'elle a battu Emmanuel Macron et son projet. C'est-à-dire que avant la dissolution, Emmanuel Macron disposait quand même d'une majorité relative. Après la dissolution, il est ultra minoritaire. Et donc ça, il n'en tire pas la leçon. C'est-à-dire qu'il fait comme si, bon, en gros, il y a une dissolution, il y a plus de divisions, on doit faire avec, mais mon bilan n'était pas si mauvais. Et il ébauche même quel sera son projet. Mais il oublie de dire qu'il n'a plus les moyens de son projet. Tout ça est lunaire. Tout ça n'aurait pas lieu dans n'importe quelle démocratie au monde. Moi, j'allais dire, pour 2025, mon souhait, il parle de référendum, mais mon souhait, c'est surtout que les Français puissent retourner aux urnes et puissent qu'on ait de nouveau la possibilité d'agir. Et pour agir, il faut qu'ils partent.
Le député La France Insoumise, Éric Coquerel, hier soir sur France Info. Pour 2025, en effet, Emmanuel Macron affiche son intention de se tourner vers les Français pour trancher des sujets déterminants. Sous quelle forme ? L'Élysée précise qu'il pourrait s'agir de référendum ou de convention citoyenne. Une nouvelle année commence et qui dit 1er janvier dit changement au pluriel. Nous en parlions hier, toutes les pensions de retraite de base augmentent de 2,2% à hauteur de l'inflation, soit 26 € par mois pour une retraite de 1 200 visible sur le versement de février. Les prix du tabac augmentent. Un paquet revient en moyenne à 12,5 €. Les tickets restaurants ne permettent plus de payer ses courses alimentaires au supermarché. À cause de la censure, le dispositif n'a pas été prolongé après le 31 décembre, mais un débat est prévu dans 2 semaines au Sénat. On peut aussi mentionner cette conséquence de la loi climat et résilience. Les logements énergivores, classés G lors du DPE, le diagnostic de performance énergétique, ne pourront plus être loués. Cela concerne plus de 500 000 logements. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h.
À 6h34, la suite de votre journal, Margot Delpierre. Cette nouvelle année célébrée en France, à travers le monde et notamment en Syrie, où de nombreux habitants ont fêté la chute du régime de Bachar el-Assad.
Oui, la fin d'une époque après plus d'une décennie de guerre, la fin de plus de 50 ans de règne sans partage du clan Assad dans le pays. Même si l'avenir semble incertain pour le moment, il est porteur d'espoir parmi la population. Reportage à Damas de Mohamed Erami.
Des sourires sur tous les visages, des enfants qui jouent, des stands de décoration, des plats festifs et un Père Noël qui distribue des cadeaux. Voilà l'ambiance dans les rues de Damas en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Après 13 ans de révolution et la chute du régime, des millions de Syriens célèbrent enfin leur liberté, loin des peurs du passé, comme nous l'ont confié plusieurs habitants de la vieille ville.
On se sent libre, avec l'impression que cette année sera remplie de bienfaits. La meilleure chose qui soit arrivée en 2024, c'est notre liberté, et grâce à Dieu, nous la ressentons enfin.
Grâce à Dieu, la situation est beaucoup plus sécurisée qu'auparavant. Maintenant, tu peux sortir sans crainte d'être arrêté. Il y a de la sécurité et de l'ordre. Et ce soir, nous allons célébrer. Nous avons réservé un restaurant pour la soirée.
Tu peux voir les Syriens dans les rues, ce qui était impensable avant. Ces gens n'osaient pas sortir avec autant de liberté. Aujourd'hui, il y a une grande liberté. Et les jeunes de l'autorité se comportent avec respect et traitent tout le monde dignement.
Près d'une église au cœur de Damas, les forces de sécurité de Hayat Tahrir al-Sham étaient déployées pour sécuriser les célébrations et éviter tout incident, comme nous l'explique Abou Al-Ubaid, responsable sur place.
Grâce à Dieu, tout le monde dans les rues dit n'avoir jamais vécu une telle sécurité depuis 13 ans. Il y a des gens qui vivaient en Europe et qui n'osaient pas revenir en Syrie auparavant. Après avoir réussi à reprendre le contrôle, la Syrie a retrouvé son accueil. Aujourd'hui, nous nous réunissons tous de toutes les confessions pour célébrer le nouvel an.
Et bien que Noël soit une fête chrétienne, la Saint-Sylvestre, elle, rassemble toute la Syrie, célébrant la fin d'une époque et l'espoir d'une année meilleure.
Mohamed Erami, hier le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Shara, de son nom de guerre Abu Mohamed al-Julani, a reçu les représentants du clergé de la communauté chrétienne. Les nouvelles autorités se veulent rassurantes, mais les minorités attendent des garanties dans ce pays multiconfessionnel encore traumatisé par la guerre. En 2025, l'Ukraine devra se battre sur le champ de bataille et à la table des négociations, prévient Volodymyr Zelensky. Le président du pays s'est adressé à sa nation hier au terme d'une année difficile. En 2024, l'armée russe a avancé de près de 4000 km². C'est 7 fois plus qu'en 2023. Kiev redoute aussi le retour à la Maison-Blanche fin janvier du républicain Donald Trump et s'interroge sur la pérennité du soutien américain. Deux personnages stars de la BD, Tintin et Popeye, tombent aujourd'hui dans le domaine public aux États-Unis, tout comme des chefs-d'œuvre d'Hemingway ou de Ravel, tous datés de 1929. Ils peuvent être librement copiés, partagé, reproduit ou adapté sans qu'un centime soit versé. En France, c'est le cas à partir d'aujourd'hui des œuvres d'Henri Matisse ou Frida Kahlo, par exemple, 70 ans après la mort de l'artiste, comme c'est la règle dans l'Hexagone. Le temps sera perturbé dans le nord-ouest, prévient Météo France, ensoleillé dans le sud-sud-est. 7 degrés cet après-midi à Belfort, 8 à Paris, 13 à Cherbourg et Ajaccio, 14 degrés à Biarritz. 6h37, tout de suite Jean Lémarie, les enjeux internationaux.
Et moi, je vous souhaite toute la force de Popeye, ma chère Margot, pour cette année 2025. Les enjeux internationaux, effectivement, tout de suite.
Les matins de France Culture, Jean Lémarie.
Les enjeux internationaux qui nous emmènent au Kenya ce matin. On va pousser les portes de lieux où on n'entre pas d'habitude. Des clubs privés, des clubs pour l'élite, pour les élites, dans ce pays qui, je le rappelle, était une colonie britannique jusqu'en 1963. Bonjour Dominique Conan.
Bonjour.
Professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, merci d'être avec nous. Je note que vous êtes en studio le tout premier invité de France Culture de cette année 2025. Vous avez enquêté longuement dans ces clubs au Kenya. Que sont ces clubs kenyans? A priori, on se dit que c'est un sujet qui nous est très lointain. Il ne l'est pas, vous allez nous dire pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ces clubs?
Alors c'est à l'origine une institution qui est issue de l'histoire européenne, en particulier britannique, mais c'est aussi une institution voyageuse qui a voyagé avec l'expansion impériale anglaise, britannique, en Asie, en Afrique, et qui est devenue véritablement une institution mondialisée, à partir de laquelle on peut comprendre la formation des élites dans tout un ensemble de pays, en particulier le Kenya, mais c'est aussi le cas en Asie du Sud-Est ou encore dans d'autres pays d'Afrique.
Au Kenya, ce sont des lieux très importants, et c'est ce que vous montrez, qui les fréquente?
Alors, une grande variété de membres en vérité, c'est-à-dire que les classes supérieures kenyanes sont très diverses. Vous avez évidemment des descendants de colons blancs, des expatriés, mais aussi les classes dirigeantes africaines dans toute leur diversité. Ce sont des élites politiques, ce sont également des élites économiques, quelques élites culturelles bien sûr, mais aussi dans le monde économique, des élites indiennes. Donc on a une grande diversité raciale, ethnique, sociale si je puis dire, aussi au sein de l'élite qui fréquente évidemment ces institutions.
Des noirs, des blancs, des indiens, c'est ce que vous montrez aussi. Est-ce que que tous se mélangent au sein des clubs?
Eh bien non, c'est justement l'un des, je crois, l'une des découvertes majeures de cette recherche, c'est de montrer que ces clubs, en vérité, en dépit de l'apparence d'homogénéité qu'on pourrait avoir derrière cette institution, peut-être une élite unie, en vérité, ne l'est pas du tout. Ce que l'on constate quand on ouvre les portes de ces clubs, c'est que ces gens ne se fréquentent pas. Blancs, noirs, indiens, ne s'assiedent pas côte à côte, par exemple, lors des soirées.
Littéralement. Les tables ne sont pas les mêmes.
Non, les tables, effectivement, ne sont pas les mêmes. On a une diversité aussi ethnique, de génération, par ailleurs, de genre, bien entendu. Hommes et femmes ne se fréquentent pas dans ces clubs. Et en vérité, c'est toute l'élite dans sa fragmentation, les élites donc, qui se donnent à voir dans leur diversité, leurs conflits, dans ces lieux finalement assez inconfortables que sont les clubs.
Les femmes que vous mentionnez ont-elles leur place tout de même dans ces clubs?
Une place, oui, mais une place plutôt marginale. Elles y sont présentes, mais néanmoins dominées, c'est-à-dire que elles y sont d'abord minoritaires, premièrement. Ensuite, quand elles sont membres, c'est souvent en tant qu'épouse, tout simplement de leur mari, qui est membre à part entière et qui, à cet égard, a des pouvoirs lors des élections. Il est vrai aussi que ces clubs sont surtout dirigés par des hommes, bien entendu. Les présidents, les secrétaires de sections de golf, par exemple, sont des hommes. Donc les femmes y sont marginales et en général dominées. Et puis il faut aussi dire que le golf, qui est un sport que l'on pratique dans ces clubs, pas tous, mais dans la majorité d'entre eux, est un sport qui est profondément sexiste et machiste par tradition, mais aussi au Kenya. On en a par exemple les tournois amateurs les plus célèbres du pays, comme par exemple le tournoi de Pâques, qui est réservé exclusivement aux hommes et qui se conclut le dimanche après-midi par un déjeuner réservé uniquement aux hommes, où les seules femmes de l'assistance sont des serveuses, et où chaque capitaine de club de golf va à la tribune faire une blague, en général sexiste, qui va amuser cette assemblée d'hommes réunis.
Ça fait partie aussi du rituel.
Ça fait partie du rituel, voilà.
Le golf, est-ce le motif officiel, principal d'existence de ces clubs, ou c'est autre chose?
Alors si vous posez la question aux membres, ils vous le diront que c'est effectivement le golf, mais le golf a évidemment d'autres sens, des sens qui sont davantage cachés. Celui d'une sociabilité évidemment réservée, élitiste, c'est-à-dire qu'on va d'abord jouer en golf avec des gens qui nous ressemblent, en théorie du moins. Et puis c'est aussi surtout un symbole de prestige. C'est aussi le golf, une manière de se sentir fier et accompli dans sa trajectoire sociale, dans un pays qui est très inégalitaire, 35% des Kenyans vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc c'est se prouver à soi-même qu'on a réussi, qu'on fait partie des riches, des vainqueurs de cette société capitaliste, que de jouer au golf. Bon, et donc ce sens-là, il est important, bien entendu. Puis on va aussi évidemment y faire peut-être de la politique, peut-être des affaires, mais c'est néanmoins un petit peu plus marginal.
Mais alors on se retrouve pour discuter. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est au bord de la piscine? Est-ce qu'on se retrouve dans des salons? Est-ce qu'on déjeune? Est-ce qu'on dîne? Vous parliez de tables séparées. Si on doit imaginer la réalité de ces clubs, Dominique Conan?
Elle est très diverse, en vérité. Évidemment, on y va pour jouer au golf, on y va pour jouer au cricket, on y va pour jouer au squash, on y va aussi pour manger, mais beaucoup pour boire, puisque la sociabilité des clubs est alcoolisée, ce qui exclut de fait la minorité musulmane du pays, qui ne les fréquente pas. Et donc, cette société, dans tout son éclatement, avec toute la diversité des sections sportives, des bars, des restaurants, le Nairobi Club, par exemple, a près d'une dizaine de bars, fait précisément qu'une grande diversité de membres peuvent participer à la sociabilité d'un même club, sans néanmoins se fréquenter et nécessairement se croiser.
Le titre de votre livre, « Faire partie du club, élite au pouvoir au Kenya », aux éditions du CNRS. Pour faire partie du club, on paye combien?
Ça dépend des clubs, mais pour les clubs les plus onéreux à Nairobi, les plus prestigieux, c'est souvent entre 3 000 et 5 000 euros de frais d'entrée, auxquels s'ajoute un abonnement annuel, notamment à la section de golf, qui peut être de 1 000 ou 2 000 euros environ. Alors c'est assez peu par rapport à ce que serait par exemple l'appartenance à un grand country club américain ou britannique. Néanmoins, dans une société comme le Kenya, ça réserve ces institutions à une petite minorité d'individus.
Quand on est entré dans un de ces clubs, quand on parvient à en être membre, est-ce qu'on est au cœur du pouvoir kényan ou pas?
Alors c'est une bonne question, puisque ce pouvoir, il est éclaté, en vérité. Donc on peut être au cœur d'un pouvoir économique quand on est soi-même dirigeant d'entreprise, mais c'est pas pour autant qu'on aura une facilité à fréquenter, par exemple, les élites politiques. C'est ce qui est paradoxal dans les clubs. On a envie d'y appartenir pour en être. En même temps, quand on est dans le club, on n'appartient pas tout à fait véritablement à une élite qui est en quelque sorte introuvable, parce qu'elle est désunie, parce qu'elle est éclatée, parce qu'elle est infréquentable d'une certaine manière, et ce qui fait que les gens courent en quelque sorte après un pouvoir qui en quelque sorte est introuvable.
Et c'est le moment, je pense, de s'attarder sur ce legs colonial que vous décrivez aussi, cet héritage que constituent aussi les clubs. On parle anglais d'ailleurs dans ces clubs?
Oui, on parle essentiellement anglais, oui, bien sûr.
Que reste-t-il là de la monarchie britannique dans ces institutions?
Il en reste d'abord des traces matérielles. Les clubhouses de ces clubs sont souvent des héritages coloniaux, pas toujours. Parfois, ils ont été détruits justement pour effacer les traces de cette colonisation. Mais néanmoins, c'est un petit peu un trompe-l'œil. C'est-à-dire que le fonctionnement interne des clubs, il est aussi l'héritier d'une histoire postcoloniale du Kenya. Et les élites qui le fréquentent sont aussi héritières de cette histoire. Et le legs colonial que l'on trouve dans les murs, celui effectivement de la liste par exemple des présidents des clubs, qui commence évidemment par des noms blancs, et celui des sports, de certaines pratiques évidemment sportive, est effectivement un héritage colonial, mais qui a été profondément approprié, transformé par les élites africaines. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour les élections à la tête du club, on a affaire à une compétition politique, on cherche à être élu, par exemple, pour contrôler le club, et cette compétition, par exemple, elle est souvent ethnicisée. Et elle donne à voir, finalement...
C'est-à-dire
par exemple, les Luo essayent de contrôler le club contre, par exemple, le candidat des Kikuyu, et on retrouve dans le club, finalement, ce que l'on retrouverait par ailleurs dans la compétition politique à l'échelle du pays, c'est-à-dire une compétition ethnicisée pour l'accès à la ressource symbolique mais aussi matérielle que représente ce club.
La colonisation a été violente au Kenya. Pourquoi ressusciter un symbole aussi de cette époque ?
Peut-être précisément parce qu'elle a été violente et que les Britanniques ont apporté dans la formation de l'État kényan une marque particulièrement forte et peut-être plus forte qu'elle ne l'est ailleurs. C'est-à-dire que dès le début de la colonisation au Kenya, les clubs font partie du pouvoir. On donne à juger, les tribunaux et les magistrats se rendent dans les clubs pour rendre justice. On organise même les premières messes au sein des clubs quand il n'y a pas d'église. La vie politique de la colonie s'y joue, mais aussi la vie économique, les associations de planteurs, les associations également de fermiers se réunissent dans les clubs, ce qui fait que les clubs font partie du pouvoir politique et économique dans ce pays. Et donc, à l'indépendance, on peut difficilement se débarrasser d'une institution qui, en dépit du fait qu'elle soit informelle, est profondément liée à la construction de l'État et du pouvoir dans ce pays.
Tout est associé là à un imaginaire de la mondialisation. Si vous commenciez par là tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Le golfe est perçu par les élites africaines non plus tellement aujourd'hui comme un legs colonial, comme un sport britannique, mais véritablement comme le sport d'élites mondialisées qui ont réussi dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire que quand vous parlez à ces golfeurs africains, ils ne rêvent pas tant des clubs britanniques que des golf clubs de Dubaï, de Singapour, de ces pays émergents, riches, capitalistes, dans lesquels on redistribue assez peu, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement des démocraties, et qui correspondent pour ces élites à un imaginaire à la fois du succès personnel, mais aussi en fait de la trajectoire dans laquelle devrait se placer le Kenya comme un pays émergent, du moins le souhaite-t-il.
Le rêve de se distinguer toujours.
De se distinguer en tant que personne, mais aussi en tant que pays, devenir un Singapour de l'Afrique.
Qu'est-ce qui est là propre au Kenya, que vous connaissez bien, et qu'est-ce qui est universel dans cette démarche, Dominique Conan ?
Alors, ce qui est universel, c'est effectivement le modèle voyageur, si je puis dire, qu'est le club, une institution que l'on retrouve partout. Ce qui est kényan, c'est l'histoire dans laquelle se greffe véritablement. C'est-à-dire que c'est l'histoire, déjà, dès les lendemains de la colonisation, de la conquête de ces lieux, qui est une revanche contre le passé colonial, alors que dans les dernières années du régime, on pend les combattants Mao-Mao, lors de ces révoltes, anticoloniales des années 50 au Kenya, aux portes des clubs, ce qui montre bien que c'est le symbole d'un pouvoir blanc. Et donc, quand les Africains essayent de jouer au golf dans les années 60, ils vont sponsoriser les caddies, qui sont les meilleurs golfeurs. Les caddies sont ceux qui portent les sacs sur les parcours de golf, pour qu'ils essaient de battre les blancs et pour qu'ils montrent ainsi que ce pays est désormais à eux dès lors qu'il atteint l'indépendance.
Qu'avez-vous compris à travers ce travail de l'élite, des élites, en tant que sociologue aussi des élites ?
Alors, quand on pense au club dans la sociologie, par exemple, française ou américaine, les travaux des Pinson Charlot, par exemple, ou de Wright Mills aux États-Unis, on a l'impression que les clubs sont les lieux qui démontrent l'homogénéité des classes dirigeantes, que les élites seraient organisées, voire qu'elles seraient en collusion permanente dans ce type de lieu.
C'est vrai que c'est l'idée générale, ou l'a priori peut-être.
Voilà, mais en vérité, au Kenya, en tout cas, on montre en vérité que ces lieux sont des lieux qui cachent une grande fragmentation, des divisions fortes au sein de ces élites. Et ce que je propose, c'est plutôt de déporter cette hypothèse, de réinterroger à nouveau frais cette idée que les clubs et que les classes dirigeantes seraient nécessairement organisées, unies et cohérentes.
Y compris ailleurs, dans d'autres pays, avec d'autres modalités.
Tout à fait.
Et vous poursuivez aujourd'hui vos travaux dans cette voie-là ou vous êtes ailleurs ?
J'aimerais bien travailler désormais sur l'Asie du Sud-Est, la Malaisie ou la Birmanie, si la trajectoire politique et la paix arrive un jour en Birmanie, mais j'aimerais bien comparer ce que j'ai trouvé au Kenya.
Et essayer de trouver un fil conducteur du comportement, des comportements, des élites au pluriel, puisque donc vous insistez là-dessus, il vaut mieux parler d'élite au pluriel que d'élite au singulier.
Tout à fait, d'élite au pluriel, d'élite hétérogène.
Une sorte d'international peut-être des élites, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Merci Dominique Conan, c'est très intéressant. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Et vous venez donc de publier « Faire partie du club élite au pouvoir au Kenya » aux éditions du CNRS. On peut retrouver les enjeux internationaux comme chaque jour sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr. À 6h49 sur France Culture, je vous propose de regarder les titres de la presse de ce mercredi matin. Avec d'abord essentiellement les vœux du président Macron à la une de vos journaux ou de leur site internet plutôt, puisqu'il n'y a pas de journaux papier ce matin, c'est un jour férié. La une du Figaro et de Libération par exemple. Emmanuel Macron admet les ratés de la dissolution. Certains journaux parlent de mea culpa ou de quasi mea culpa. Ils notent tous aussi que le président de la République ouvre la voie à des référendums cette année. On va y revenir dans le journal de 7h. Le quotidien Ouest France, lui, retient aussi cette vidéo étrange qui a ouvert les vœux présidentiels avec Emmanuel Macron en voix off pour retracer les temps forts de l'année, juste après l'hymne à l'amour chanté par Céline Dion, souvenir des Jeux Olympiques évidemment. Dans vos journaux encore ce matin, tous les changements du 1er janvier, par exemple sur le site des Échos, retraite, cigarettes, PEL, timbre, alors que de son côté, La Croix choisit un angle européen. En ce 1er janvier, le Hongrois Viktor Orban cède la présidence de l'Union à la Pologne. Et puis à l'œil du Parisien, la fête sur les Champs-Élysées. 1 million de personnes sur les champs ces dernières heures. J'y étais pas, mais ça devait être spectaculaire. Une ambiance qui rappelait les Jeux Olympiques et d'après le Parisien, avec tout de même 25 degrés de moins, mais autant de sourires que l'été dernier.
Culture Monde s'offre un pas de côté littéraire et demande aux écrivains leur part de vérité sur le monde.
Julie Gacon.
Nous recevrons l'écrivaine irakienne Inam Kashashi, dont le dernier roman croise les destins de deux femmes originaires de Bagdad, le romancier palestinien Karim Katan. L'écrivain grec Makis Malafekas, ses polars pulp racontent crûment une Grèce en crise. Enfin, le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy pour Le rêve du jaguar.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous avez fait une grosse sieste cette année, non ? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture. Saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 6h52.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie.
Autrement dit, l'heure d'Avec Science avec Alexandre Morales. Bonjour Alexandre.
Bonjour Jean, bonne année. Hein. Bonne année à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices aussi.
Et aujourd'hui, une découverte d'astronome, un trou noir supermassif dans l'univers primatif. Primitif, est-ce que ça veut dire, Alexandre, qu'on parvient à observer les débuts de l'univers ?
Oui, alors ici, nous ne parlerons pas du trou noir supermassif dans les souvenirs de certains de nos auditeurs qui auraient trop fêté le nouvel an. On va parler d'un ogre cosmique qui absorbe la matière et la lumière. Posons d'abord quelques bases théoriques pour répondre à votre question. La lumière émise par un objet, comme une étoile, doit traverser l'espace pour nous parvenir. Et du fait de cette latence, nous n'observons pas les étoiles telles qu'elles sont, mais telles qu'elles ont été. Par conséquent, plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde loin dans le temps. Et c'est justement dans une région éloignée dans le temps et l'espace, qui correspond à 800 millions d'années après le Big Bang, que les astronomes ont découvert un trou noir extrêmement massif. Il fait près de 400 millions de fois la masse de notre Soleil. Cette observation contredit nos modèles théoriques de la formation des trous noirs, qui ne devraient pas être capables d'atteindre de telles masses en si peu de temps. Cette découverte a été publiée dans la revue Nature. Stéphane Charlot est directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a participé à ces observations réalisées encore et toujours grâce au James Webb Space Telescope.
Le télescope James Webb, il a été conçu pour observer la lumière décalée dans l'infrarouge des toutes premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang, c'est-à-dire qui a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années environ. Un des éléments donc les plus mystérieux de l'histoire, cosmique et qu'on connaît depuis longtemps, et la présence de trous noirs supermassifs à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Et ce sont des monstres gravitationnels véritablement qui ont été détectés grâce à l'émission intense donc de leur disque d'accrétion et qui peuvent atteindre plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. C'est tout simplement que le gaz qui est attiré par la force gravitationnelle du trou noir donc s'échauffe en tombant sur lui et cela émet un rayonnement intense et caractéristique que l'on peut observer.
Il est l'un des trous noirs les plus massifs repérés au début de l'univers. Il représente environ 40% de la masse totale de sa galaxie hôte. À titre de comparaison, dans notre univers proche, les trous noirs détiennent plutôt 0,1% de la masse de leur galaxie. Ce qui est étonnant pourtant, c'est que son taux de croissance est très faible, 100 fois inférieur à sa limite maximale théorique. Les scientifiques l'ont donc qualifié de dormant.
Alors comment se forment ces trous noirs massifs, Alexandre ?
Bien, le modèle classique est qu'un tel trou noir naît d'une graine initiale, un plus petit trou noir, produit par l'effondrement d'une étoile massive en fin de vie sur elle-même. Il grandit ensuite en capturant petit à petit de plus en plus de gaz et de matière et d'étoiles de son environnement proche. C'est ce qu'on appelle l'accrétion. Seulement, il existe une limite théorique à cette croissance, la limite d'Eddington. Elle provient du fait que l'immense quantité de lumière produite par le disque de matière qui entoure le trou noir, ce qu'on appelle le disque d'accrétion, provoque une pression qui repousse la matière environnante et ralentit la croissance du trou noir. C'est cette limite qui empêche théoriquement un trou noir de grandir aussi vite, une limite contredite par cette observation. Les scientifiques l'expliquent par deux hypothèses qui ne s'excluent pas l'une l'autre.
Il y a une première théorie qui dit qu'en fait, dans certaines conditions, il y a des nuages de gaz primordial pourraient grandir sans former d'étoiles, jusqu'à s'effondrer directement en trou noir massif. Donc, ces trous noirs seraient de l'ordre d'une dizaine de milliers, voire de centaines de milliers de masses solaires, et ça constituerait donc des graines bien plus massives que les trous noirs stellaires, donc à partir desquelles pourraient croître les trous noirs dans l'univers primordial. Mais il y a aussi une autre hypothèse. Et donc, celle-là, donc, a été généralement plus envisagée, c'est que les trous noirs stellaires traversent des phases de croissance ultra rapide, en fait, où ils dépassent temporairement la limite théorique d'accrétion d'Eddington. Et intéressant de mentionner que cette limite théorique, en fait, elle est calculée dans des conditions idéalisées qui supposent un gaz homogène, sphériquement symétrique autour d'un trou noir et sur lequel, donc, le rayonnement agit uniformément.
Cette limite est donc bien théorique, et dans les conditions réelles, le gaz autour du trou noir ne se dispose pas en sphère uniforme, mais plutôt, on l'a vu, en disque, avec des zones plus denses que les autres, ce qui limite la répulsion exercée par la lumière. Et c'est cette possibilité d'atteindre même brièvement une limite de super-Eddington qui permettrait des phases extrêmement rapides de croissance, puis ayant vidé son espace proche, le trou noir ne peut plus se nourrir et entre en dormance. En somme, des périodes de suralimentation suivi de périodes de repos.
On les comprend.
Cette découverte nous laisse penser qu'il y aurait dans l'univers une population cachée de trous noirs dormants. Nos outils, cachés.
Incroyable. Hein,
nos outils d'observation nous permettront peut-être de les découvrir et de mieux comprendre la coévolution des trous noirs et des galaxies dans l'univers primitif.
Merci Alexandre, avec Science évidemment et ses trous noirs sur l'appli Radio France.
Il est 6h57 sur France Culture, c'est l'heure de votre humeur du jour, Jean, en cette matinée très particulière.
Le 1er janvier. Un matin pas comme les autres, oui et non, en tout cas pour nous, à la radio. Comme chaque jour, le réveil qui sonne, très tôt, en pleine nuit, l'arrivée à France Culture, les premiers mots échangés avec les camarades du petit matin. Vous savez que la maison de la radio ne dort jamais vraiment. Un premier café ou un premier thé, et puis on remonte le fil. Les dernières informations, les derniers reportages envoyés par nos journalistes sur le terrain. Et ces nouvelles que nous allons vous apporter quand vous allez vous réveiller. Un matin comme les autres donc. Et en même temps, le 1er janvier, rien n'est pareil. En traversant la ville pour vous rejoindre, vous, les auditeurs, les auditrices, une ambiance de fête, des bars, des restaurants encore ouverts, malgré l'heure, de la musique aussi encore, et des passants habillés pour le nouvel an, des costumes et des paillettes, des rires, des vœux, des couples qui s'embrassent. Pour quelques heures, le monde semble moins chaotique. Le 1er janvier, notre mauvaise conscience. Vous informer, oui, toujours, bien sûr, mais comment ne pas casser l'ambiance ? L'actualité est sombre souvent. Et cet élan du 1er janvier, cette envie d'y croire, ils sont précieux. Gardez-les pourquoi choisir cette année encore à France Culture, avec l'équipe des matins, avec Guillaume Erner, avec la rédaction, dans nos journaux, avec nos invités. Nous serons là encore pour essayer de vous éclairer le mieux possible avec vous dès le début de la journée et en gardant, en tout cas on va essayer, quelque chose de cet élan. Tenter de comprendre le monde, mais aussi son ouverture et tous les possibles, et ils sont nombreux ces possibles. Dès ce matin d'ailleurs, dans trois quarts d'heure, nous serons avec le chercheur Ludovic Slimak, invité des Matins de France Culture. Alors, pas pour évoquer les trous noirs supermassifs, si j'ai bien compris, Alexandre Morales, non. Son sujet à lui, c'est nous, plus directement, Néandertal et Sapiens surtout. Nos origines et notre devenir, ce qui fait de nous des humains. Pas seulement nos gènes ou notre peau, notre imaginaire aussi, notre part de rêve pour bien commencer 2025. Je vous souhaite une